Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. 1 milliard d'euros supplémentaires donc pour les secteurs mis en difficulté par l'instauration du couvre-feu. C'est l'enveloppe dévoilée hier par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Alors avant de la détailler, écoutons le ministre que l'on entend sincèrement désolé, vous allez l'entendre, notamment pour l'hôtellerie, café, restauration.
Je me jure parfaitement leur désarroi. Ils avaient commencé à se redresser, ils avaient commencé à rouvrir et ces obligations sanitaires leur font l'effet d'une douche froide. Nous serons à leur côté et nous continuerons à être leur côté en renforçant les dispositifs qui sont déjà en vigueur.
Alors les mesures donc. Premièrement, le fonds de solidarité, il est désormais ouvert dans les zones de couvre-feu à toutes les PME de moins de 50 salariés, toutes les PME sans exception et quel que soit le secteur, 1500 euros d'aide à partir de 50% de perte de chiffre d'affaires. L'aide grimpe à 10 000 euros pour l'hôtellerie-restauration, la culture, l'événementiel et le sport. Alors deuxièmement, il va y avoir des exonérations de cotisations patronales et salariales pour les entreprises fermées administrativement, uniquement patronale pour celles qui restent ouvertes, toujours à partir de 50% de perte de chiffre d'affaires. Par ailleurs, le guichet des prêts garantis par l'État, il va être prolongé jusqu'au 30 juin. Bercy demande par ailleurs aux banques de reporter d'un an le remboursement de ses prêts pour les entreprises en difficulté. Alors, ceci dit, tout n'est pas réglé. Quid, par exemple, de la question des loyers? Le gouvernement réfléchit à un crédit d'impôt pour les bailleurs. Écoutez Didier Chenet, il est le président du GNI Restaurateur.
Les loyers, c'est la deuxième charge après les frais de personnel et ça peut représenter 10% du chiffre d'affaires. C'est vous dire le poids que représentent ces loyers. Sur une grande racine parisienne, ça peut être 100 000 euros par mois. Et c'est pour ça qu'il y a urgence, puisque nous avons été fermés. Les professionnels considèrent qu'ils ne peuvent pas payer un loyer. Il faut qu'il y ait un effort qui soit fait et nous proposons un effort tripartite. Un tiers à la charge du locataire, un tiers à la charge du propriétaire et le troisième tiers qui sera à la charge du propriétaire mais qui bénéficiera d'un crédit d'impôt de l'État. C'est ce qui fait l'objet de la discussion. Il faut que la décision soit prise avant fin novembre.
Didier Chenet, le président du GNI Restaurateur. Autre problème pour les employeurs, les congés payés des salariés, puisque même en chômage partiel, le compteur continue de tourner. Faute de pouvoir prendre ces jours dus, beaucoup de salariés demandent à leur employeur de les leur payer. Est-ce que l'État doit aussi prendre cela en charge? Eh bien, la réponse est oui pour le restaurateur parisien Stéphane Manigold, porte-parole du collectif Restons Ouverts.
J'ai un peu plus de 50 salariés sur le groupe. Eh bien, ça fait 110 jours par mois que je dois. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit tout simplement conforme à la promesse politique qui est de dire l'État prend à 100% en charge nos salariés. Aujourd'hui, on n'y est pas. Alors, qu'est-ce qui bloque? Je n'en sais rien. Nous, on cumule de la dette sans rentrer de chiffre d'affaires. À un moment, c'est plus possible.
Voilà, avec le couvre-feu, retour également au télétravail, retour conseillé. La ministre Elisabeth Borne invite les entreprises à définir un nombre minimal de jours de télétravail par semaine. La fonction publique, elle, est en train de s'organiser pour permettre 2 à 3 jours par semaine de travail à domicile pour les fonctionnaires pour qui cela est possible. Enfin, ce chiffre, du 1er mars au 11 octobre, on recense à ce jour 528 plans sociaux en France. C'était 295, près de la moitié, donc pour la même période l'an dernier.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h42 à l'Assemblée nationale, le débat sur le budget 2021 se poursuit. Les députés ont voté hier en première lecture les articles 3 et 4 du projet de loi de finances, dont la baisse des impôts de production de 10 milliards à partir de l'an prochain. Adoption également d'un coup de pouce fiscal pour les PME. Le taux réduit d'impôt sur les sociétés sera désormais accessible jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était 7,6 millions jusque-là. L'actualité des entreprises avec EDF. EDF, d'abord, relativement confiant sur sa capacité de production électrique cet hiver. À ce jour, 38 réacteurs nucléaires sur 56 sont en fonctionnement. EDF, par ailleurs, en pleine réflexion sur les moyens d'industrialiser la production de son fameux réacteur EPR. Comment les construire plus vite et surtout moins cher à Flamanville, par exemple. On en est à 10 ans et demi de retard et une facture multipliée par 4. C'est intenable s'il faut un jour les bâtir en série. EDF lance donc un plan pour construire bien et du premier coup. Nom de code de ce plan, Excel. Céline Cajouis.
EDF veut fabriquer des EPR comme on fabrique des voitures en créant des procédures standards. Ça fait gagner du temps et économiser de l'argent. Une mission confiée à Alain Tranzer, spécialiste de la qualité industrielle venu de chez PSA.
C'est un changement de culture qui est qu'on réussit davantage à améliorer la performance, à dérisquer les projets en standardisant tout ce qui peut l'être, de sorte à rendre l'exercice plus facile, à ceux qui fabriquent et assemble la centrale.
Un EPR, c'est 132 km de tuyaux et 300 000 soudures. À Flamanville, il y avait justement eu des problèmes sur ces soudures. En cause, le manque d'expérience des ouvriers. Alors Marjorie Asveld, en charge du plan soudure, va tout faire pour que cela ne se reproduise plus.
Un bon soudeur, il a besoin de s'entraîner, de travailler régulièrement pour être en capacité de faire les soudures les plus critiques. Donc on a aussi cet enjeu de stabiliser nos panels et de leur donner de la visibilité et de l'engagement.
Et pour y arriver, il y aura plus de 20 000 embauches, dont entre autres des soudeurs d'ici à 2022, dont une partie viendra d'ailleurs de l'Université du nucléaire qui sera créée l'an prochain.
Le deuxième vaccin, candidat vaccin anti-Covid de Sanofi, bientôt en test sur l'homme. Ce prototype à ARN messager a eu de bons résultats sur la souris et le singe. Alors il s'agit du candidat vaccin développé par Sanofi avec Translate Bio. L'autre qui est développé avec le britannique GSK est aussi en phase de test sur l'homme et ce depuis un mois. C'est le jour J pour Bio C'est Bon. Les candidats à la reprise de l'enseigne ont rendez-vous aujourd'hui au tribunal de commerce de Paris. Ils sont quatre prétendants, Biocoop, Carrefour, la famille Zoari et Auchan. Et puis, vent de fronde au capital du géant mondial des centres commerciaux Unibail Rodamco Westfield. Le groupe français qui gère de très gros centres, dont le Forum des Halles à Paris, se voit reprocher aujourd'hui sa fusion l'an dernier avec l'Australien Westfield. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
À la tête de cette révolte, on trouve l'ancien PDG d'Unibail et puis le milliardaire Xavier Niel.
C'est ça, ce tandem détient 4,1% du capital de la société et entend bien convaincre d'autres actionnaires de se rallier à leur cause. Leur objectif est de permettre au groupe d'amorcer un virage stratégique, de le recentrer sur ses activités les plus rentables. Les fondeurs considèrent que le rachat de Westfield en 2017 a été une erreur. La direction en place comptait sur cette acquisition pour dégager des synergies et doper sa croissance. Eh bien, elle peine à convaincre. Selon certains actionnaires, il s'agit en fait d'une mauvaise affaire au mauvais moment, au mauvais prix, et qui endette en plus lourdement Unibail Rodamco Westfield. L'ancien PDG d'Unibail et le milliardaire Xavier Niel réclament la vente des actifs anglo-saxons afin de recentrer le groupe sur son cœur de métier, à savoir la gestion des centres commerciaux européens. Ils espèrent prendre le pouvoir lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 10 novembre pour remanier le directoire et imposer leur feuille de route.
Voilà, les fusions créent-elles de la valeur, hein, c'était le débat, je vous rappelle, dans l'affaire Suez-Veolia également. Et puis c'était sa première sortie hier. Luca De Meo, le directeur général de Renault depuis cet été, a présenté hier la nouvelle génération de véhicules Renault 100% électriques. Il y en a deux, la Mégane E Vision et la Dacia Spring. Alors écoutez Luca De Meo au micro de Céline Cajoulis.
Ça va être la voiture électrique la plus accessible du marché et je pense que ça va donner la possibilité aux gens d'acheter une voiture électrique au prix où aujourd'hui ils achètent une voiture à moteur à combustion. C'est aussi simple que ça. On parle d'une voiture qui a officiellement 225 km, qui en gros c'est suffisant par rapport au parcours moyen que les gens font pour charger une fois dans la semaine et puis aller au boulot et revenir, aller au supermarché et revenir. Donc ça va être un truc assez pratique et je pense que c'est une autonomie suffisante pour une voiture citadine.
Le directeur général de Renault, donc au micro de Céline Cajoulis. Le CAC 40 en forte baisse hier, moins 2,11%, 4 837 points. Les marchés s'inquiètent évidemment à des nouvelles restrictions sanitaires partout en Europe. Peu d'espoir aussi aux États-Unis sur le plan de relance, hein, toujours englué dans de laborieuses négociations entre républicains et démocrates. Ça pèse sur le moral des investisseurs. Wall Street finissait en petite baisse aussi, le Dow Jones moins 0,07%, le Nasdaq moins 0,47%, 11 000.